de suite, le journal avec Frédéric Barrère. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Des scènes de terreur cet après-midi à l'aéroport de Kaboul. Deux explosions se sont produites devant l'aéroport en pleine opération d'évacuation. Au moins 6 personnes ont été tuées. Il y a des dizaines de blessés. Aucun Français parmi les victimes. Washington parle d'un attentat complexe. Les opérations d'évacuation vont se poursuivre, annonce Emmanuel Macron. Vincent Souriau, l'envoyé spécial de RFI à Kaboul, était présent à l'aéroport au moment des explosions. Son témoignage dans un instant. Qui peut être derrière ces attentats? Explication dans le journal. Et à l'instant, ce soir, les talibans condamnent les attentats. La rentrée scolaire, jeudi prochain, une rentrée la plus normale possible. Jean-Michel Blanquer veut se montrer rassurant. Nous avons cette année un atout, dit-il, c'est le vaccin. La campagne à droite pour la présidentielle avec la fin du suspense pour Laurent Wauquiez. Le moment n'est pas venu, il ne sera pas candidat. Dans ce journal également, Benjamin Mendy, le footballeur français champion du monde, accusé de viol et d'agression sexuelle. Il a été suspendu par son club Manchester City. Et puis, deux médailles supplémentaires aujourd'hui aux Jeux paralympiques de Tokyo. De l'or pour Alexandre Léauté en cyclisme, poursuite individuelle. Et de l'argent pour Alex Bourlon en haltérophilie. Et le téléphone ce soir, le téléphone sonne ce soir, Éric Delvaux, sera consacré aux situations de handicap. Bonsoir Eric.
Oui, effectivement, en marge des Jeux paralympiques, c'est l'occasion de regarder de plus près le handicap en France. Eh bien, on verra que les règlements et autres obligations ne sont pas toujours appliquées. Par exemple, en matière d'accessibilité des bâtiments et aux transports publics.
Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. La météo pour demain, nuages au nord, soleil au sud, Élodie Calac à la fin de ce journal.
France Inter.
Depuis ce matin, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie alertaient sur la menace imminente d'un attentat à l'aéroport de Kaboul. Cet après-midi, au moins 2 explosions ont eu lieu à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul. Il y a des victimes et selon les premières informations, il s'agit d'un attentat suicide. C'est ce qu'a indiqué dans l'après-midi un responsable américain. Vincent Souriau, l'envoyé spécial de Radio France Internationale à Kaboul, était présent à l'aéroport lorsqu'une explosion s'est produite au niveau de l'une des portes d'entrée de l'aéroport de Kaboul. Le témoignage de Vincent Souriau.
Cette détonation s'est produite à proximité d'Abbey Gate, qui est l'une des entrées de l'aéroport. C'est un endroit fréquenté par un certain nombre de gens qui, en tout cas, essaient de tenter leur chance. Cette porte d'Abbey Gate, elle sépare le tarmac de l'aéroport, qui est sécurisé par les Américains, les Britanniques, les Turcs et les Français, de la zone contrôlée par les talibans. L'attitude des talibans immédiatement après l'explosion a été de tirer en l'air. Ils ont crié parce que c'est ce qu'ils font depuis le début de cette crise. Ils ne sont absolument pas des spécialistes du maintien de l'ordre. Et ils ont employé les mêmes méthodes que celles qu'ils employaient dans la gestion du drame humanitaire, c'est-à-dire crier sur la foule qui fuyait pour essayer de disperser tous ces gens choqués par l'explosion qui venait de se produire. Ce que j'ai vu, ce sont des blessés. D'abord, dans la foule qui tentait de quitter les lieux le plus vite possible, des hommes à la chemise ensanglantée qui étaient encore capables de marcher. Et par la suite, des victimes beaucoup plus gravement atteintes, notamment plusieurs enfants portés à bout de bras par leurs parents, les images que l'on connaît dans ce genre de situation dramatique. Des hommes transportés dans des brouettes parce qu'ils n'étaient plus capables de marcher et qu'il a fallu attendre les premières ambulances qui sont arrivées sur les lieux du drame environ une demi-heure plus tard.
Vincent Souriau, l'envoyé spécial de Radio France Internationale à Kaboul. Ces attentats auraient fait au moins 6 morts et une dizaine de blessés. Il n'y a aucun Français parmi les victimes, indique l'ambassadeur de France à Kaboul, David Martinon. Bonsoir Éric Bégala.
Bonsoir Frédéric.
La consigne ce soir à Kaboul est de se mettre à l'abri et de s'éloigner le plus possible de l'aéroport. Les circonstances des explosions ne sont pas encore suffisamment claires. On ignore encore ce soir également le nombre exact de victimes.
Oui, absolument. Alors, on parle de 2 fortes explosions différentes. La première, peu avant 16h, juste à côté de l'une des 4 entrées de l'aéroport, à Abbey Gate. Vincent Souriau en parlait à l'instant. Des centaines d'Afghans patientaient là, le long d'un canal d'évacuation des eaux usées, parfois depuis plusieurs jours. Les images de l'attaque, probablement un kamikaze, et diffusées sur les réseaux sociaux, montraient des dizaines de corps emmêlés dans un véritable carnage. Selon les médias afghans, notamment la chaîne Tolo News, il y aurait au moins 13 morts, mais le bilan pourrait bien être beaucoup plus lourd. L'ONG italienne Emergency annonçait tout à l'heure avoir reçu une soixantaine de blessés graves dans son seul dispensaire. Des soldats américains et turcs en charge de la protection de l'aéroport ont également été blessés dans l'attentat, de même que des talibans, confirmait tout à l'heure l'un de leurs porte-parole. Une heure plus tard, une seconde explosion se faisait entendre juste à proximité de l'hôtel Barron, là où les Afghans, devant s'embarquer sur les vols américains et britanniques, se prépositionnaient. Une deuxième explosion, suivie d'échanges de tirs, d'armes automatiques. L'un des correspondants afghans du New York Times, présent sur place, donnait il y a quelques minutes un bilan total d'au moins 30 morts.
Alors de nombreux talibans auraient été blessés dans ces explosions, c'est ce qu'annoncent les talibans eux-mêmes, Eric. Et les regards se tournent vers le groupe État islamique qui a revendiqué certaines des attaques les plus meurtrières commises ces dernières années.
Oui, les Occidentaux avaient prévenu que de semblables attaques par les militants djihadistes de l'État islamique dans le Khorasan étaient à craindre autour de l'aéroport et sur ces zones à l'extérieur de l'aéroport. Ce sont les talibans qui sont censés assurer la sécurité. Des talibans qui manifestement ne sont ni équipés ni renseignés pour ce faire. Ils viennent d'ailleurs officiellement de condamner, vous l'avez dit, la double attaque. L'État islamique dans le Khorasan, très actif depuis 2015 en Afghanistan, c'est l'ennemi intime des talibans dans la galaxie djihad. D'ailleurs, le modus operandi des opérations d'aujourd'hui, une double explosion, probables attaques suicides, visant des civils, suivi d'échanges de tirs, ressemble à tous les attentats revendiqués par l'État islamique à Kaboul ces derniers mois.
Alors des explosions qui ont eu lieu en pleine opération d'évacuation, des opérations que mène également la France actuellement. Emmanuel Macron, aujourd'hui en visite en Irlande, a réagi à ces explosions à Kaboul et il donne des précisions sur les évacuations qui vont se poursuivre et qui sont imminentes. On l'écoute.
Au moment où nous nous parlons, nous avons 20 bus avec des ressortissants binationaux et plusieurs personnes afghanes et afghans en danger que nous souhaitons pouvoir rapatrier. Plusieurs de ces bus sont dans la file d'attente qu'il y a dans la zone à l'extérieur de l'aéroport. Et donc nous allons faire le maximum pour que toutes ces personnes que nous avons pu prendre en charge mais qui ne sont pas arrivées dans l'enceinte de l'aéroport militaire puissent y accéder et puissent être ensuite évacuées vers les Émirats Arabes Unis et la France. Ça représente plusieurs centaines de personnes en danger. Je ne peux pas aujourd'hui vous garantir que nous arriverons à procéder à ces opérations parce que la situation de sécurité n'est pas sous notre contrôle.
Voilà, à propos d'Emmanuel Macron, recueilli par Julie-Marie Lecomte. Et ce soir également, les évacuations britanniques vont continuer malgré les attentats à Kaboul, annonce de Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Alors, de son côté, l'OTAN à Bruxelles indique que la priorité reste d'évacuer autant de gens que possible. Où en sommes-nous ce soir, Eric Bigala, des opérations d'évacuation?
Eh bien, elles se poursuivent, mais sur un rythme beaucoup moins soutenu que ces derniers jours. Sur les dernières 24 heures, 13 400 personnes ont été évacuées depuis Kaboul. Mardi, on dépassait les 20 000 personnes évacuées en 24 heures. Plusieurs pays ont d'ores et déjà annoncé la fin de leurs opérations. La Belgique a mis un terme à ses rotations dès hier soir. Le Canada vient d'arrêter ses vols. Les Pays-Bas devraient eux aussi mettre un terme à leur rotation aujourd'hui. Quant à la France, elle a annoncé que les vols des appareils français sur Kaboul se termineraient demain soir. En tout, on approche des près de 100 000 personnes évacuées depuis le 14 août, c'est-à-dire en moins de 15 jours.
Eric Bigala, merci. Alors sur le nombre de victimes, cette information des urgences hospitalières à Kaboul qui indique avoir accueilli une soixantaine de blessés. 6 personnes sont mortes durant leur transfert à Washington. Le président Joe Biden, dans la salle de crise de la Maison-Blanche, est tenu informé de la situation. Le Pentagone, le ministère de la Défense américain, indique que des Américains donc figurent parmi les victimes d'un attentat complexe. Et puis ce soir, Angela Merkel, la chancelière allemande, dénonce un attentat absolument ignoble.
France Inter, Frédéric Barrère.
L'actualité en France, c'est la rentrée scolaire au moment où la circulation du variant Delta suscite des inquiétudes à l'école. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a expliqué ce matin que la rentrée serait la plus normale possible pour préserver la scolarité des élèves. Bonsoir Sonia Princé.
Bonsoir.
Jean-Michel Blanquer a expliqué que cette année, pour la rentrée, eh bien, il y a un atout face au virus et cet atout, c'est le vaccin.
Oui, c'est ce qui permet au ministre de dire qu'il est serein pour cette rentrée. Parmi les 12-17 ans, 57% ont reçu au moins une dose de vaccin. Et parmi les enseignants, la proportion est encore plus élevée, selon Jean-Michel Blanquer, qui cite un sondage de l'Institut Ipsos.
Déjà, 78% des professeurs ont terminé leur schéma vaccinal. Et puis, 11% vont recevoir une deuxième injection d'après cette enquête. On est donc autour de 90% des professeurs en passe d'avoir un schéma vaccinal complet. Nous allons évidemment en avoir davantage après cette rentrée, puisque c'est aussi à eux que s'offre la vaccination.
Les personnels pourront en effet se faire vacciner, comme les élèves de plus de 12 ans, dans des centres éphémères installés dans les collèges, les lycées ou à proximité. Dans les écoles primaires où les enfants ne sont pas vaccinés, des campagnes de tests salivaires seront organisées. 600 000 tests hebdomadaires, promet le ministre, et 2 autotests par semaine pourront être distribués aux adultes qui le souhaitent dans tous les établissements. Tous les élèves feront leur rentrée en même temps, avec gestes barrières habituels, masques en intérieur, mais pas en extérieur, sauf dans les départements qui l'imposent dans la population générale. C'est le niveau 2 du protocole sanitaire qui s'applique sur une échelle de 4. Il pourrait être relevé si besoin, localement, en fonction de la circulation du virus, mais pour l'instant, il permet d'avoir une rentrée presque normale.
Et ce protocole de niveau 2 dont vous parliez, Sonia, s'applique déjà à La Réunion, où la rentrée a eu lieu le 16 août dernier, et le premier centre de vaccination éphémère, installé dans un lycée, a ouvert aujourd'hui au lycée Lecomte de Lille. Les élèves et le personnel qui le souhaitent peuvent se faire vacciner pendant 2 jours et une centaine de rendez-vous a déjà été pris. Le reportage à La Réunion de Delphine Gérard.
Tu as une préférence pour le bras ?
Les salles de classe transformées en salles de consultation médicale, des box en tissu pour administrer le vaccin. Pendant 2 jours, ce centre de vaccination éphémère doit accueillir environ 200 lycéens et personnels, majoritairement pour leur première dose. Lilia est l'une des premières reçues.
Faire vacciner au lycée, c'est moins de stress. Enfin, il y a moins de complications. On n'est pas obligé de prendre un rendez-vous, des choses comme ça. On peut directement se faire vacciner et on est tranquille avec ça.
Au-delà de 16 ans, les élèves peuvent décider seuls de se faire vacciner. En dessous de cet âge, ils doivent obtenir une autorisation d'un des deux parents.
C'est ma décision, mais j'ai été influencée par mes parents. Ils s'étaient tous les deux vaccinés. Il ne leur est rien arrivé.
À La Réunion, le taux d'incidence du virus reste élevé chez les jeunes, d'où l'intérêt de leur donner un accès privilégié à la vaccination. Chantal Manès-Bonisseau, rectrice de l'Académie de La Réunion.
Nous faisons des opérations de sensibilisation et d'information aux élèves pour qu'ils aient tous les éléments pour prendre leurs décisions ainsi que leurs parents.
Un libre choix qui ne va pas toujours en faveur de la vaccination.
Moi, qu'on me fasse vacciner, ça ne me dérange pas forcément, mais c'est plutôt mes parents qui ne veulent pas.
Je ne suis pas vaccinée, je ne compte pas le faire. De toute façon, on peut vivre sans. Hein. Les restaurants, on peut prendre à emporter. Les centres commerciaux, on peut également y aller. Et voilà. Hein.
2 autres centres éphémères vont être mis en place prochainement dans le sud et l'ouest de l'île. Et des opérations de vaccination sont aussi prévues dans les universités.
Reportage de Delphine Gérard de Réunion, la première. Et puis cet après-midi, lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué que la circulation du virus est en nette diminution depuis quelques jours. La campagne pour la présidentielle qui agite la droite avec des candidatures qui se multiplient pour une éventuelle primaire. Éric Ciotti, ce matin, a officialisé sa candidature. Ce soir, Michel Barnier doit annoncer sur TF1 qu'il est lui aussi candidat. En revanche, il n'y a plus de suspense autour de la décision de Laurent Wauquiez. Il ne sera pas candidat, Élodie Forêt.
Oui, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes vient de l'annoncer sur Twitter. Être candidat à l'élection présidentielle, c'est une décision que l'on prend, non parce que l'on en a envie, mais parce que c'est un moment où on se sent en situation de rassembler son camp. Je considère que pour moi, ce moment n'est pas venu, écrit-il. Laurent Wauquiez, qui poursuit, je ne veux pas ajouter de la division à la division, citant les candidatures à droite qui se multiplie de façon inquiétante, dit-il. L'ancien patron des LR qui cet été avait déjà évoqué auprès de ses proches le grand sentiment de responsabilité qui l'animait, ne surtout pas contribuer à la défaite de sa famille politique. Une décision qui va sans aucun doute impacter fortement maintenant l'avenir de la primaire à droite. Un cadre hier me confiait, sans lui ce sera compliqué, déséquilibré, sans aucun poids lourd face à Valérie Pécresse, la primaire risque d'être discréditée.
Élodie Forêt, merci. Je reviens un instant sur les attentats près de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan. Plusieurs militaires américains semblent avoir été tués dans les explosions, information donnée par un responsable américain. Le footballeur français et champion du monde Benjamin Mendy suspendu par son club Manchester City après des accusations de viol et d'agression sexuelle. Le défenseur international a été placé en détention provisoire ce soir. Benjamin Mendy est accusé de 4 viols et d'une agression sexuelle selon la police anglaise. Fabrice Abgral.
Benjamin Mendy ne fait plus partie de l'effectif de Manchester City. Les dirigeants mancuniens l'ont immédiatement suspendu pendant toute la durée de la procédure judiciaire. Benjamin Mendy a été arrêté aujourd'hui par la police à la demande du procureur. Le défenseur français est soupçonné de 4 viols et d'une agression sexuelle pour des faits survenus entre octobre 2020 et août 2021 dans le comté de Chester, au sud-ouest de Manchester. Les autorités judiciaires britanniques précisent que les plaintes émanent de jeunes femmes âgées de plus de 16 ans, l'âge légal du consentement en Grande-Bretagne. Benjamin Mendy a été placé en détention provisoire. Il sera présenté demain devant le tribunal de première instance de Chester. Benjamin Mendy est âgé de 27 ans. Il compte 10 sélections en équipe de France. Il faisait partie du groupe sacré champion du monde en 2018 en Russie. Il a joué son dernier match avec les Bleus en Albanie en novembre 2019. Benjamin Mendy a joué dans 4 clubs différents, Le Havre, Marseille, Monaco et Manchester City depuis 2017.
La liste des 23 bleus retenus par Didier Deschamps pour les matchs de qualification en septembre pour le Mondial 2022 de football, Olivier Giroud n'a pas été retenu. Choix sportif du moment, selon Didier Deschamps, Adrien Rabiot et Benjamin Pavard sont également absents en raison de blessures. Et donc, 4 nouveaux apparaissent, Moussa Diaby, Aurélien Tchouaméni, Théo Hernandez et Jordan Veretout. Tirage au sort également en ce moment de la phase de groupe de la Ligue des Champions avec 2 clubs français en lice, Lille et le PSG. Et pour le PSG, avec Lionel Messi, la Ligue des Champions est un objectif prioritaire cette saison. Et le PSG, le tirage au sort se poursuit, affrontera Manchester City, dont on parlait à l'instant. Lille hérite de Séville en attendant la fin du tirage au sort. Une bonne journée pour les Français aux Jeux Paralympiques de Tokyo. 2 médailles d'or, 2 médailles supplémentaires aujourd'hui. Ça fait 4 au total, alors il n'y en a qu'une en or. En cyclisme, pour Alexandre Léauté, 20 ans, qui s'impose en poursuite individuelle sur 3000 mètres. Et la deuxième médaille, c'est de l'argent pour Axel Bourlon en haltérophilie, en para développé couché moins de 54 kilos. Axel Bourlon, dont le handicap et l'achondroplasie, ou le nanisme, n'était pas candidat au podium. Il a pourtant réussi à sa troisième barre à soulever 165 kilos. Il est donc vice-champion paralympique. Alex Bourlon, interrogé par France Télévisions.
Franchement, c'est ouf, c'est exceptionnel, c'est mes premiers jeux et elle est là. C'est le résultat du travail, des entraînements que j'ai fait jusqu'à présent qui ont payé. C'est tout le staff qui était avec moi et tout, qui m'ont accompagné pour en arriver là. Bien sûr, ma famille, ma maman, mon père, mes frères et mes amis. Que demander de mieux, mes premiers jeux et j'ai la médaille d'argent, vice-champion paralympique. Je peux dire que je le suis, quoi.
Voilà Alex Bourlon, vice-champion paralympique d'haltérophilie. Le temps pour demain.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Météo encore mitigée demain ?
Oui, ça sera vraiment contrasté. Hein. On retrouvera un ciel gris du nord de la Seine vers le bassin parisien et le Grand Est le matin avec quelques gouttes possibles. L'après-midi, on retrouvera quand même des éclaircies. Du nord de la Bretagne et de la Basse-Normandie vers le centre-Val de Loire, le Jura, le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, là, ce sera partagé entre nuages et éclaircies. Et puis, de l'océan vers le sud-ouest, la Méditerranée, le sud des Alpes, ce sera à nouveau du soleil demain. Toujours du vent en Méditerranée, tramontane, mistral et vent d'ouest du Var à la Corse, hein, jusqu'à 70 km à l'heure, parfois 80 à 90 sur le relief Corse et les caps exposés. Et puis les températures, elles poursuivront leur baisse. Seulement 18 degrés à Cherbourg demain après-midi, 20 à Lille, 21 à Brest et à Mulhouse, 22 à Paris, Angers et Clermont-Ferrand, 24 degrés du côté de Grenoble, mais encore 27 à Agen, 29 à Marseille et 32 à Perpignan.
Élodie Calac de Météo France, merci.